Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur !» Cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, chers amis, dans le 8e psaume, l'un des plus brefs des 150 que contient la Bible, un homme s'interroge et pose à Dieu cette question. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Une telle interpellation ne surgit pas de nulle part. Elle est le fruit d'une longue et paisible contemplation ainsi résumée. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Le psalmiste a appris à observer et il admire la beauté de la création pour laquelle il rend grâce à Dieu. Puis il prend conscience, avec un mélange d'enthousiasme et de crainte, de la responsabilité que le Créateur confie à l'homme. Au seuil d'une nouvelle année scolaire et pastorale, nous pouvons nous sentir invités à adopter une attitude comparable, nous réjouir de ce qui est bon, de ce qui est beau et vivant, et prendre conscience de l'engagement qui nous attend et qui nous presse. La première ressource sur laquelle nous pouvons nous appuyer se trouve aujourd'hui décrite par le prophète Jérémie, nous l'avons entendu dans la première lecture, sous la forme d'une confession plutôt douloureuse, mais nous y sommes habitués chez lui. Jérémie prend lui aussi le temps de relire son parcours, mais il ne parvient guère à y déceler autre chose que la souffrance, la désolation, la persécution. Il semble éprouver le regret d'avoir été choisi comme prophète et il crie sa détresse à la face de Dieu et de son peuple. Il ne trouve ni motif d'action de grâce, ni occasion de consolation. à longueur de journée, souffle-t-il, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Il envisage alors de s'enfuir et de tout abandonner, sa maison et sa mission, sa prédication, peut-être même sa foi. Mais il poursuit ainsi. Cette parole était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os, je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Le prophète reconnaît qu'il peine à accorder à Dieu sa pleine confiance et qu'il cherche d'une manière presque désespérée à garder la maîtrise de cette parole qui lui a été confiée non pour lui-même, mais pour le bien et pour la conversion du peuple tout entier. Malgré son triste désarroi, Jérémie confirme par sa propre expérience l'intuition du psalmiste. Oui, Dieu prend souci de l'homme et ne craint pas de placer en lui sa confiance et son espérance. En l'occurrence, il a choisi de convoquer un homme et d'en faire son prophète pour une mission importante et difficile. Ne nous arrive-t-il pas d'éprouver à notre tour un certain vertige devant l'ampleur et l'exigence des tâches très variées qui nous sont confiées et qui dépassent assurément nos seules forces? Dieu nous offre donc sa parole comme première et précieuse ressource, une parole à laisser résonner et à méditer sans cesse, une parole à accueillir et à reprendre. Surgit alors, dans l'évangile que nous venons d'entendre, un signe évoqué par Jésus au détour d'un chemin. Ce signe, nous le connaissons bien, c'est le signe de la croix qui projette soudain une ombre inattendue sur le cœur des disciples qui marchaient jusqu'alors avec un certain détachement. Et c'est Pierre, toujours spontané, qui réagit le premier et qui reçoit aussitôt cette réponse cinglante « Passe derrière moi, Satan ». Sans doute Pierre a-t-il regretté de s'être levé ce jour-là, et pourtant sa préoccupation immédiate était assez compréhensible, celle de préserver Jésus de la souffrance et de la mort. Mais Jésus ne pense pas d'abord à lui-même. Il s'adresse à chacun d'entre nous. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ces mots seraient inaudibles si Jésus ne nous donnait pas l'exemple en portant lui-même sa propre croix et en nous aidant à porter la nôtre. Il n'impose pas une condition à ceux qui désirent s'engager à sa suite. Il nous encourage plutôt à nous engager tout entier avec lui, c'est-à-dire avec notre humanité concrète, avec nos joies et nos détresses, avec nos élans et nos pesanteurs. Le pape François nous a souvent mis en garde contre la tentation de vouloir un Christ purement spirituel, sans chair ni croix. En voilà que Jésus prend sa croix pour nous mener à la vie en plénitude. Nous pouvons donc, assez simplement, remettre entre ses mains les croix que nous avons à porter aujourd'hui et celles que portent nos proches, nos voisins, nos amis. Le Seigneur nous parle et sa parole nous guide. Le Seigneur nous montre le chemin de la croix comme un signe paradoxal de vie et d'espérance. Et en définitive, le Seigneur nous accorde sa confiance et il ne cesse de renouveler cette confiance en nous. Animé par cette conviction intime, l'apôtre Paul prend la parole à son tour et délivre cette invitation solennelle « Transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu ». Nous pourrions écrire cette phrase et nous la répéter souvent au cours de cette année, afin qu'elle prenne chair et consistance dans notre vie. Transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Transformez, renouvelez et discernez. Ces trois verbes indiquent une action, un mouvement, une résolution. La vie n'est pas une éternelle reproduction. Elle nous enrichit d'expériences multiples et nous projette toujours en avant. La semaine dernière, le pape Léon XIV a prononcé un discours important devant les participants de la rencontre annuelle de Rimini en Italie. Je vous invite, si vous en avez l'occasion, à lire ce discours, à la fin duquel il lançait cet appel « Ouvrez-vous à une véritable catholicité en élargissant vos liens au-delà de toute appartenance trop étroite. L'année qui commence sera marquée par des événements importants dans nos familles sans doute, peut-être dans notre travail, mais aussi dans la vie sociale et politique de notre pays, dans notre Église également. Ne craignons pas de nous laisser bousculer, transformer, renouveler et continuons à discerner en toute occasion la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui. Amen. »